Vous écoutez France Culture.
Place de la Toile, magazine hebdomadaire des cultures numériques, des nouvelles technologies et de leurs usages. Un sujet, aujourd'hui une question, qu'est-ce qu'une information ? Sous-titré le journalisme, Twitter et le reste, et nous en discuterons avec Éric Scherrer, Stéphane Aliès, Alexandre Hervaux et Alice Antôme. Bonjour à toutes et à tous. Avant de poser à mes invités la question qui nous occupera pendant cette heure entière, je voudrais commencer par vous faire part de mon agacement suite à la lecture d'une chronique publiée dans le magazine Média dans son 23e numéro sorti en décembre. Cette chronique est signée Robert Redeker, philosophe. Elle est intitulée subtilement « Facebook, narcissisme et exhibitionnisme ». Le titre résume assez bien le propos du papier puisqu'il s'agit d'une dénonciation en règle de l'usage qui est fait du célèbre réseau social. Alors quelle est la thèse de Redeker ? Elle est simple, je le cite. Facebook est surtout un média d'exhibition à laquelle la socialisation sert de masque. Quels sont maintenant les arguments venant à l'appui de cette thèse ? D'abord, se publient sur Facebook, je cite encore Redeker, les pensées les plus triviales, les idées les plus insignifiantes, sans souci d'une quelconque qualité intellectuelle. Bon. Ensuite, je cite toujours Redeker, l'exigence stylistique est absente car sur Facebook on n'écrit pas, on communique. Et Redeker dirigeait ce type de communication en déni de la littérature classique qui présuppose espace et élaboration. Certes, autre argument, sur Facebook on ne se rencontre pas, on se croise. Pas de dialogue, mais une communication sans enjeu, sans, dit Redeker, l'épaisseur de l'existence qui caractérisait la communication dans la vie d'avant. Et puis, qu'est-ce qu'on dit sur Facebook ? Selon Redeker, on s'exhibe, on étale son ego au point qu'il y voit un nouveau rapport à la vie qui est le même que celui manifesté dans la télé-réalité. Je le cite encore, « Facebookien et candidat des émissions de télé-réalité participent à la même dissolution de l'humain, à sa néantisation. » Car, et pour appuyer son argumentation, Redeker va chercher le pauvre Michel Foucault qu'ils ont embarqué dans cette galère. Cet exhibitionnisme est paradoxal dans les mesures où il n'y a plus rien à montrer, le moi et la subjectivité étant vidés de toute leur substance. Finalement, et c'est la conclusion de ce brillant papier, c'est un nouvel être humain dont Facebook nous permet de voir émerger l'existence. Je cite une dernière fois Redeker, il n'écrit plus, il ne pense plus, il communique, il tweete. Son rapport au monde ne passe plus par les méandres de l'intériorité, la profondeur de l'âme, lieu du secret, mais par un réseau virtuel dont la nature relève de la publicité, excluant tout obstacle à la transparence, en particulier la profondeur. Fin du papier. Alors que faire face à un truc pareil ? On pourrait démonter point à point son argumentaire, on pourrait, si ça valait la peine, faire parvenir à Robert Redeker 2 ans et demi d'archives de Place de la Toile, mais aussi et surtout des pages et des pages d'études qui ont été faites sérieusement, à partir de corpus larges, avec des appareils théoriques opérants et pas suspects de techno-béatitude, tout ça montrant que les choses sont juste un tout petit peu plus complexes que veut bien le croire le philosophe. Parce qu'au fond, et c'est ce qui m'étonne le plus dans tout ça, c'est pas la thèse de Redeker qui est au fond très classique et déjà 1000 fois entendue, c'est cette manière de ne pas appliquer à son objet, Facebook en l'occurrence, les catégories de ce qui semble être pour lui la pensée, à savoir l'observation, la réflexion, le temps d'élaboration et pourquoi pas le travail de réflexion produit par d'autres qui sont plus experts. Ce qui aboutit nécessairement à des propos qui sont violents, certes, mais d'une profonde banalité et finalement assez inutile, à tout prendre entre l'exhibitionnisme qui fait indéniablement partie des usages de Facebook et le café du commerce qui se donne les apparats de la pensée, je ne sais pas ce qui se rapproche le plus du néant. Donc, oublions, levons nous et chantons. Habla de la moda, habla de fulana, que me engaña este caso, es un solo bla bla bla. Corta cera fina, corta el cotorreo, deja ya la lengua en paz con tu bla 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 bla. Yo no hablo mal de nadie, ni de nadie. Eso solo es bla bla bla. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Alors, je vais vous présenter par ordre d'âge, si ça ne vous dérange pas. Hein, Éric Scherrer, vous déjà vous soupirez. Après tout, c'est une préséance comme une autre, hein, l'âge. Elle n'est pas innocente, en plus, dans les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. Donc, bonjour Éric Scherrer.
Bonjour, vieillard.
Oh non, il ne faut pas dire ça. Vous êtes journaliste ? Vous êtes directeur de la stratégie et des relations extérieures à l'AFP, l'agence France Presse. Vous enseignez aussi en école de journalisme, à l'IPJ, au CELSA, puis vous faites des interventions à l'école de journalisme de Sciences Po Paris. Et les auditeurs fidèles de Place de la Toile vous connaissent bien, car vous en êtes un par un, ce qui vous donne le devoir de venir par ces temps très très frisquets jusqu'à la maison de la radio pour nous parler aujourd'hui. Stéphane Aliès.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes journaliste à Mediapart, journal d'information en ligne, et vous enseignez aussi l'écriture multimédia à l'école de journalisme de Lille. Alice Antôme,
bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe du site 20minutes.fr, vous enseignez aussi à l'école de journalisme de Sciences Po, et vous êtes une des personnalités de Twitter France, puisque vous avez quasiment 25 000 followers.
Oui, je fais partie des utilisateurs recommandés par le réseau social Twitter.
C'est un honneur qui fait qu'à chaque fois que vous écrivez quelque chose sur Twitter, au moins 25 000 personnes vous lisent. Alexandre Hervaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi une des personnalités sur Twitter. Vous avez beaucoup de followers, puis vous écrivez beaucoup. Et vous êtes journaliste sur le site libécran.fr.
Voilà, exactement.
Alors, avec vous, j'aimerais qu'on parle de ce qui se passe dans le journalisme, pas du point de vue de la concurrence entre l'écran et le papier, pas du point de vue des modèles économiques, payant contre gratuit, publicité ou pas, etc. J'aimerais qu'on s'attelle à des questions qui sont, au fond, très pratiques. Et j'aimerais que vous en parliez depuis votre propre expérience, chacun. En quoi vos pratiques journalistiques sont-elles modifiées, travaillées par les nouveaux médias ou par le fait que vous travaillez vous-même dans un média en ligne? Quand je parle de pratique, je parle d'écriture, d'utilisation d'autres supports, de l'usage des réseaux sociaux, de Twitter. Pourquoi pas? J'aimerais qu'on parle de la question générationnelle, de ce que vous sentez chez les jeunes journalistes que vous croisez dans vos médias, mais aussi dans les écoles où vous enseignez. Ce que vous sentez aussi dans les générations antérieures aux vôtres. Et puis, si vous avez l'impression que est modifiée au fond la notion qui est au cœur de votre métier, à savoir celle de l'information. Alors si vous le voulez bien, je vais procéder en vous soumettant des hypothèses, vous allez voir, extrêmement brillantes, forcément, que vous aurez à charge donc de discuter les unes après les autres. Alors hypothèse 1, j'ai l'impression que le journalisme n'est plus une pratique dont les règles sont fixées, que ce que c'est que le métier de journaliste n'est plus un ensemble de règles auxquelles il suffit de souscrire, mais que c'est une série de questions, ce métier, et qu'aux deux questions traditionnelles du journalisme, à savoir quelle information traiter et sous quel angle, se sont ajoutées une multitude d'autres questions, qui sont des questions qu'on va pouvoir énumérer. Mais bref, j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'on discute énormément, tout le temps, de tout, au sein des rédactions, peut-être plus qu'on n'a jamais discuté, et que finalement tout ça n'est pas forcément très mauvais. Alors Éric Scherrer, peut-être, puisque vous avez une expérience des rédactions longue.
Oui, j'ai 20-25 ans d'expérience dans différents médias et puis pas mal à l'étranger. Ce qui se passe aujourd'hui, oui, c'est un véritable tsunami, c'est un véritable, une lame de fond pour nos métiers. Et je voudrais reprendre une phrase du patron des études de l'école des journalistes de l'université de Laval au Canada, qui disait récemment à Paris « Ceux qui prétendent savoir où va le journalisme sont des fumistes, tout est à réinventer ». Je crois qu'effectivement, Internet réinvente le journalisme de fond en comble. Alors, on est aujourd'hui, pour donner un petit peu le paysage, on est aujourd'hui, en tout cas les journalistes aujourd'hui, sont confrontés à une situation effrayante. Il ne faut pas se le cacher. Les jobs disparaissent par milliers aux États-Unis, par centaines en France. Des jobs qui disparaissent trois fois plus vite que dans d'autres secteurs. Certains comparent notre secteur à la sidérurgie, ce n'est pas tout à fait faux. Le quart, voire le tiers des rédactions a fondu, a disparu depuis les années 2000, depuis le début des années 2000. Donc on est dans une conjoncture économique extrêmement grave. Dans le même temps, les demandes des médias et de la hiérarchie rédactionnelle est d'en faire plus avec moins de ressources. Donc on est confronté à des injonctions extrêmement paradoxales. Et puis la qualité baisse, faut pas se leurrer. La qualité aujourd'hui, la qualité de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les médias traditionnels est en train de baisser. Si vous ouvrez certains magazines ou certains quotidiens aujourd'hui, la valeur économique, c'est-à-dire la valeur d'usage entre ce qu'on attendait et ce qu'on reçoit, est en train de diminuer rapidement. Autre gros problème, et c'est lié à l'apparition du Web 2.0, c'est-à-dire à l'événement majeur de ce qui s'est passé ces 15 dernières années, je crois que, pour revenir là-dessus, c'est pas l'arrivée d'Internet qui a tout bousculé, c'est la prise de contrôle par l'audience de nos outils de production et de distribution. C'est l'événement majeur. C'est cette prise de contrôle qui a tout changé. Et donc, c'est la perte de contrôle, la perte de monopole par les journalistes de la parole, du magistère de la parole. C'est le fait qu'ils ne déterminent plus seuls aujourd'hui l'agenda de l'information, ce qu'ils étaient en situation de le faire avant. Aujourd'hui, ils ne sont hélas plus, je crois que c'est plutôt une bonne chose, mais ils sont
hélas économiquement,
en état d'être seuls à le déterminer. Ils sont confrontés directement à leurs audiences et ils se prennent leur audience en pleine figure tous les jours. C'est quelque chose auquel ils n'étaient absolument pas habitués. Leur image, qui n'était déjà pas très bonne, est en train de se dégrader encore chaque jour. Hier, on avait une indication aux États-Unis où il y avait un classement des 200 professions.
Vous l'avez tweeté, Eric Scherrer, nous l'avons lu.
Oui. les 200 professions, un ordre de grandeur de l'impression qu'on a des professions, le journaliste arrivait sur 200 en 185e position.
187e,
voilà.
Après la police.
Après la police,
oh là là,
après,
c'est tout dire. Après les conducteurs
après les
poids lourds.
Après les ménages et après tout un tas de professions nobles, mais on ne s'attendait pas à retrouver notre profession à ce niveau-là en termes d'image. Voilà, donc une autorité, un pouvoir d'influence contesté. Donc ça déstabilise extrêmement nos rangs. Ce n'est pas forcément un rejet du journalisme en tant que tel, mais c'est un rejet des médias traditionnels qui sont faits aujourd'hui, je pense. Pour finir, on est confronté à des gens, nous-mêmes, on est obligé de sortir de notre zone de confort, comme on dit en anglais. Mm-hmm. Et ça, c'est pas très facile. Donc,
je vous propose que, que nous arrêtions là cette émission et que nous allions nous coucher. Mais est-ce que ça fait qu'on discute ça dans les rédactions ?
Oui.
Effectivement, ouvrons la parole aux uns et aux autres.
Le
constat que vous dressez est une profonde tristesse. Mais est-ce que, alors, Alice Antoine, est-ce que ça fait qu'on discute et que du coup on remet en question de façon positive, ou je ne sais pas si c'est positif, mais en tout cas que ça crée de la discussion qui est pour le coup intéressante, ou... Alice Antoine.
Oui, ça discute à chaque instant, non seulement de la façon, de quelle information on va traiter, de comment on la traite, effectivement, à quel moment on la met en ligne. Ça, c'est important, le timing. Est-ce que c'est... Parce qu'on ne pense plus en termes de journée, on pense en termes de minutes, d'heures, voire de minutes, voire de secondes. Donc, c'est ça aussi qu'on détermine à chaque instant. Et effectivement, ce qu'on a décidé la veille peut être mis en question le lendemain, parce que c'est quand même l'intérêt d'être dans une rédaction, y compris en ligne, c'est de discuter à chaque instant et d'être un petit groupe qui brainstorm en permanence. Mais le débat, il est aussi provoqué par le fait qu'on est dans une période de temps réel. C'est accéléré, les questions sont accélérées, ce qui peut-être autrefois était en une année de temps, les questions qui arrivaient en une année, là, sont réduites en une semaine. Parce que la production est accélérée du fait des réseaux sociaux, et du coup, ça accélère aussi la façon de brainstormer en permanence.
Alors, de quoi on discute dans les rédactions les uns les autres ? Stéphane Alias, à Mediapart, par exemple, de quoi on discute ?
Globalement, c'est vrai qu'on a l'impression... Enfin, l'état de fait, c'est que le journaliste, grâce à Internet, grâce au Web 2.0, est descendu de son piédestal. Il est confronté directement au regard du lecteur et à l'interpellation du lecteur. Cette descente de piédestal, cette remise en cause de la profession s'accompagne aussi d'une reconfiguration du métier. On n'est plus simple rédacteur, mais on est amené de plus en plus à devenir également photographe, vidéaste. Et cette reconfiguration n'est pas acceptée de la même façon par tout le monde. Il y en a qui sont très volontaires, qui peuvent faire les hommes orchestres sur un reportage avec un appareil photo, une caméra et un calepin. D'autres qui ont plutôt encore une certaine idée du métier en se disant « Non, moi, je suis là pour prendre des notes, discuter avec les gens et après faire un papier et pas forcément prendre des photos. » Je parle des photos parce que moi, je le vois sur les reportages où je croise des copains photographes avec qui je bossais avant, quand je bossais en presse écrite, et qui était mon photographe.
Qui venait avec vous.
Et là, les mêmes photographes me croisent et me voient en train de prendre une photo au moment d'un meeting et ils me disent « Putain, non, pas toi, quoi, pas toi. » je le fais plus. Ouais. Et du coup, je le fais plus. Donc maintenant, par exemple, nous, on discute beaucoup à Mediapart sur... On n'a hélas pas l'argent et peu long pour pouvoir se payer un photographe ou plusieurs photographes pour suivre les événements. Donc la question, c'est est-ce qu'on fait des photos nous-mêmes ou pas ? Alors généralement, quand on fait un reportage où on est seul, bon, ben, on n'a pas le choix, donc on va aussi accompagner nos photos, et puis on fait en sorte d'avoir le temps d'essayer de prendre des photos. Mais moi, je vois les photos que je ramène au meeting, la fois où je les fais avant de me faire engueuler par les copains journalistes, les copains photographes, mes photos, elles sont pourries. Et vraiment, moi, non seulement j'ai honte de ce que je fais, mais en plus, j'ai l'impression de tuer un métier. Et c'est une vraie question, parce que la photographie de presse, par exemple, sur Internet, là, c'est un vrai métier, il est quasiment mort, quoi. Quand on parle avec les photographes de presse aujourd'hui, ils n'arrivent plus à vendre et à monétiser leur métier. Là, pour le coup, c'est un métier qui est quasiment mort. Mmh. Alors que nous, bon, on a encore des moyens d'essayer de se réinventer, on discute autour de ça.
Alors, il y a eu la question de la photo, qui est une des questions qui est discutée à Mediapart. Alice Antôme parle de la question donc, de la rapidité du temps d'information. On abordera cette question plus avant. Vous, Alexandre Hervaux, il y a d'autres choses dont vous avez l'impression qu'on discute?
Moi, ça a déjà été évoqué tout à l'heure plus tôt, c'est effectivement le côté, l'interaction qu'il y a avec les lecteurs, qu'on n'avait pas, en tout cas pas à ce niveau-là, avant. Ce qui est, bon, évidemment, il y a l'interaction classique qui est les commentaires aux articles, tout simplement. Et en l'occurrence, avec Rampe.fr, il y a même la possibilité d'envoyer un message directement, un mail direct à l'auteur des articles. Ça a été évidemment, porté à un autre niveau via Twitter, où éventuellement les internautes qui sont inscrits à ce réseau social peuvent directement interpeller les journalistes. Et parfois, ça peut être des corrections, des précisions qui sont apportées. Parfois, toutes simples, ça peut être, une faute d'orthographe ou une erreur factuelle mineure ou pas. Et c'est vrai que on a l'impression d'être surveillé en permanence, mais je ne dis pas ça d'une manière négative et péjorative. Je dirais qu'il y a un côté... voilà, on sait qu'on peut pas faire n'importe quoi. Ça, c'est toujours le cas. Je veux dire, c'est mieux de pas faire n'importe quoi.
Tranquillement, n'importe
non,
quoi.
Non, bien sûr. Mais je veux dire, c'est qu'il y a l'erreur est facilement et beaucoup plus rapidement maîtrisée qu'avant, je trouve. Et ça fait partie, à mon avis, des avantages, des bienfaits de cet aspect temps réel et de cet aspect aussi communauté de lecteurs qui se forment autour des journalistes.
Oui, pour rebondir sur ce que dit Alexandre Hervaux, effectivement. La réaction des internautes ou des lecteurs, elle se fait plus uniquement dans les commentaires sous son article. C'est-à-dire que la communauté, on n'a pas sa communauté uniquement sur son média. La communauté, elle est exportée, de même que nous, on s'exporte sur d'autres réseaux sociaux. Sa communauté, elle peut réagir à un article qui est pourtant publié sur 20minutes.fr, Écran ou lemonde.fr ou Mediapart, enfin n'importe. Mais les réactions peuvent se trouver effectivement sur Twitter ou sur Facebook et finalement, il y en aura très peu sous l'article. Et c'est à la charge du journaliste désormais de lui aussi s'exporter sur ses réseaux puisque les réactions sont ailleurs, il faut bien qu'il aille les chercher ailleurs.
Étant sur le grill en permanence, il faut arriver à être, à voir ce qu'on dit de son article aussi, et donc effectivement d'être obligé de s'exporter pour voir si ce qu'on écrit passe directement la barrière de l'internaute, du lecteur.
Juste pour finir sur cette première hypothèse un peu d'ambiance, Éric Scherrer, vous vous souvenez ce que c'était votre métier avant Internet? Je suis désolé de vous utiliser un peu comme ça, du genre l'ancêtre sur le bateau, parce qu'il n'est absolument pas le cas. Mais
autant des pigeons voyageurs, ou les gars.
Non, mais quand même pas, j'allais pas dire ça. Mais les uns et les autres, on a commencé notre métier avec l'Internet. Pas forcément sur l'Internet, mais au moins avec ça comme outil. Vous avez commencé un tout petit peu avant. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était?
J'ai du mal, non, c'est vrai, j'ai du mal. Comment vous dire? Non, écoutez, ça n'allait pas aussi vite. Ça n'allait pas aussi vite. Rappelez-vous simplement que ce qu'on appelle le continuum de l'info, c'est-à-dire le news cycle en anglais, le temps qu'il faut à une information de passer entre le moment où elle arrive et le moment où le public la connaît. Hein. Au temps des journaux, c'était 48 heures. C'est-à-dire entre le moment où un événement se produit ou le moment où le public le connaît, 48 heures entre la publication et la réaction des gens le lendemain.
Mais il y avait la radio quand même.
Alors, au temps des journaux, je vous parle.
Ah oui, d'accord.
Ensuite,
même la radio,
télévision, hertzienne, 24 heures à peu près. Ouais. Après le journaux du soir. Hein, ouais, ouais. C'était ça. Au temps des chaînes d'infos, on continue avec CNN, une demi-journée. Hein, les temps de réaction, et aujourd'hui, c'est 15 à 20 minutes. Donc, c'est un tout autre... d'où l'obsession du temps réel, d'où la réactivité extrêmement... Alors, pour revenir à votre question, C'est un peu particulier pour moi parce que j'ai toujours travaillé dans une agence de presse. Et une agence de presse, c'est le temps réel, c'est 24/7, c'est un peu l'ADN du numérique déjà. Donc, par une pirouette, je pourrais vous répondre qu'on était déjà dans ce temps réel-là. Mais simplement, bon, les outils n'étaient pas les mêmes. C'est essentiellement le téléphone, à l'époque le fax, pour l'arrivée de tout un tas d'informations. Effectivement, aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose. C'est Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est être à l'écoute. Être en veille permanente sur tout un tas d'autres outils. Mais je crois que c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui que de mon temps.
Ah oui ?
Oui.
C'est bien. Vous n'êtes pas comme Robert Redeker. Alors, hypothèse 2. Hypothèse 2, donc, qui est la conséquence de la première et puis qui concerne plus particulièrement le journalisme en ligne, c'est encore une fois un sentiment que les formes propres au journalisme en ligne ne sont pas trouvées. Alors, je parle là des formes qui sont des formes d'écriture, les formats, par exemple, mais aussi la langue. Quelle langue on utilise, quelle image, quel usage de l'image, de l'illustration. Vous en parliez tout à l'heure, Stéphane Agnès, de la photo, de la vidéo. Quelle interaction entre le texte et la vidéo. Est-ce qu'un site d'information en ligne peut se passer de la vidéo, mais dans ce cas, quelle interaction? Et puis pourquoi, si on fait de la vidéo, dans ce cas, pas devenir une chaîne télé web et faire du texte? Donc on voit des choses apparaître, propres. Peut-être, ouais, par exemple, les webdocu interactifs, c'est une forme, bon, pourquoi pas. Mais on a l'impression qu'aucun modèle ne se pose dans aucune de ces questions comme un modèle majoritaire. Est-ce que vous avez vous-même, vous partagez vous-même ce sentiment d'espèce d'expérimentation perpétuelle?
Moi, je pense surtout qu'il n'y a pas un modèle définitif qui devrait être imposé comme ça. Et je pense qu'effectivement, toute cette multitude d'expérimentations qui sont menées dans différents médias, je la trouve plutôt saine. Et en même temps, ça, c'est une espèce de renouvellement permanent d'expérience. Je prendrai deux exemples rapides comme ça que j'ai en tête. Lemonde.fr a publié hier ou avant-hier, je crois, suite à la remise du rapport Zelnick, un visuel interactif consacré au téléchargement et plus particulièrement aux arguments des pros et des anti-Adopi. Un visuel très simple, assez ludique, qui pourrait même être considéré comme un quiz, avec d'une partie sur la gauche les arguments des pro-Adopi, donc favorables à toutes les mesures visant à éliminer le piratage, et d'un autre côté les arguments des anti-Adopi. Et en posant des questions et des affirmations hyper simples du genre « la France est championne du monde en piratage », c'est pas une affirmation qui avait été assénée à reprise multiple par Christina Bannel, par exemple, on clique dessus et on a la réponse qui s'affiche en dessous. En l'occurrence, c'était faux. Et puis voilà, autre exemple, complètement différent, en tout cas sur une autre thématique, pendant le sommet de Copenhague, des journalistes de Libération, je crois qu'ils étaient 3 ou 4, ont alimenté un compte Twitter qui s'appelait @libécopenhague et qui est toujours actif, je crois, et qui faisait partager à tous les abonnés, je crois qu'il y en avait au final presque un millier de followers, faisait partager donc le côté coulisses de Copenhague, aussi bien parfois en direct quand il y avait des manifestations qui risquaient de déborder avec des arrestations, etc., et des casseurs, mais aussi bien le côté, voilà, un petit peu coulisses des négociations en direct, ambiance parfois, alimentée de photos à l'occasion. Et voilà, c'est deux exemples complètement différents. Un exemple plus réseau social, temps réel, et un exemple plus un visuel interactif qui peut un petit peu se voir comme un descendant des webdocu, qui montre que dans deux médias installés, en l'occurrence là, Le Monde et Libération, qui sont des médias traditionnels à la base, il y a une espèce de volonté de faire autre chose et de montrer qu'il y a des pistes différentes qui peuvent être suivies.
Stéphane Agnès.
C'est très vrai ce que dit Alex sur... Il n'y a pas un modèle qui doit s'imposer, au contraire de... Ça, on ne le sait pas non plus sur le modèle économique, mais même sur le modèle d'écriture, ce qui est agréable, c'est qu'il y a... Il y a effectivement, ça va de 140 signes de Twitter jusqu'à autant de signes qu'on veut. Moi, je le prends pour parler de ma chapelle, de Mediapart. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que d'emblée, on nous a dit... Ok, la règle informelle comme quoi sur un site internet, c'est pas plus de 3000 signes, ça on s'en fout, c'est aussi long que ça peut être intéressant. Moi je vois concrètement, je suis journaliste politique, ça a changé du tout au tout ma pratique journalistique sur la politique. Truc tout con, et vraiment sans incriminer du tout les confrères, parce que moi ici j'étais sur papier, quand on a 2500 signes pour faire un papier, on est obligé de retenir la petite phrase. Et on tombe dans le cycle de la petite phrase qui s'auto-alimente, avec l'homme politique qui sait que le journaliste n'a que 2500 signes, donc va lui faire de la petite phrase et va résumer. Là maintenant, moi je n'ai pas cette contrainte. Le mec me fait... L'homme politique me fait...
ou la femme politique.
Ou la femme politique me fait... je parle avec elle, je peux retranscrire tout son raisonnement. Inclut la petite phrase qui va la conclure, mais au moins avec tout le raisonnement dedans. Ça change déjà énormément dans le traitement de l'information.
Mmh. C'est intéressant, ça.
Mais ça ne veut pas dire que c'est mieux que le live tweet, qui est plus péchu et qui apporte beaucoup. Ça permet de pouvoir aussi bien faire un papier d'analyse qu'un live en temps réel. Quoi.
Mmh. Alice Antôme.
C'est vrai qu'il n'y a pas de format, mais c'est ça la richesse du web. Et c'est le côté labo, c'est-à-dire que ce n'est pas grave si on teste quelque chose et que le lendemain, on change d'avis et qu'on fait autre chose. Il y a ce côté dédramatiser les formats. Et le seul format qui existe sur le web et qui est valable de façon universelle pour l'instant, c'est le lien. Le fait que tous les sites d'info sont reliés entre eux. Et le lien, c'est le seul format valable aujourd'hui qui fait que, oui, pour donner plus d'informations, on va non seulement écrire un texte, peut-être mettre une photo, peut-être mettre une vidéo, peut-être mettre un son, enfin, qu'importe. En revanche, il y aura un lien vers un autre contenu qu'on a trouvé encore plus intéressant. Et nous, c'est notre travail de sélectionneur, de trieur de l'info, de repérer les meilleurs liens pour les mettre dans nos papiers.
Même s'il y a encore débat, parce que sur les liens, certains, genre l'équipe.fr, sa politique, c'est pas de lien. Pas de lien. D'autres médias encore, c'est minoritaire, mais ça débat encore, se refuse encore à ça et ne font que des liens internes, c'est-à-dire vers des articles déjà produits par le même média.
Vous avez l'extrême inverse, qui est un média qui pourrait consister à faire simplement des liens.
Bien sûr.
Et donc là, on se dit...
Journaliste de liens.
Une sorte d'agrégateur de contenu qui s'érige en média. Éric Scherrer.
Je crois qu'avec Internet, on a une chance incroyable d'avoir de nouveaux types de narration du réel. Nouveau type de narration classique, texte, photo, vidéo, mais d'autres types de narration qui sont donnés effectivement par les liens, qui sont donnés par les infographies animées, qui sont données par exemple dans la crise financière des subprimes. Moi, je crois que le meilleur outil d'information m'a été donné par un dessin animé qui expliquait pendant 10 minutes qu'est-ce qui s'est passé pendant l'explosion des subprimes aux États-Unis, des crédits et de la crise du crédit américain.
Il provenait d'où ?
Un journaliste qui l'avait produit. On peut expliquer et décrire et raconter le monde avec d'autres outils aujourd'hui. Alors, on parle du journaliste de lien, qui était effectivement quelque chose d'extrêmement important, parce que ça fait gagner du temps aux gens, à votre public. Mais il y a aussi, je crois, beaucoup au journaliste de données qui va émerger très rapidement. Parce qu'il y a tout un tas de données qui sont d'ailleurs publiques, qui sont disponibles, mais qu'on ne sait pas moissonner, qu'on ne sait pas exploiter. Alors on va les exploiter et on va découvrir, on va pouvoir avoir des révélations, probablement des révélations, des vraies révélations journalistiques sur des comportements. On va pouvoir demander à certains pouvoirs de rendre des comptes grâce à ces statistiques. Mais l'autre chose, c'est qu'on va pouvoir visualiser ces données de manière beaucoup plus, entre guillemets, sexy. C'est-à-dire qu'on pourra voir de manière éducative, informative, tout un tas d'informations qui était autrefois dans des tableaux, dans des tas de fichiers Excel, de rapports ennuyeux, on va les voir de manière ludique et informative. Ça, c'est vraiment un grand champ de potentiel du journaliste de demain, du journaliste de données. Je crois aussi beaucoup à l'hyperlocal, à aller très en profondeur dans les communautés, dans les quartiers. Internet va permettre et permet déjà ça. Donc, des nouvelles formes de narration qui sont devant nous et qui sont à exploiter.
Stéphane Alias.
Également, on pourrait dire en journaliste de documents. Enfin, moi, je vois sur Mediapart, on a le retour des lecteurs qui sont très contents quand on, sur une investigation ou sur, sur un papier politique, quand on donne aussi à lire un rapport. Avant, on disait nous avons consulté le rapport. Maintenant, on vous donne le rapport. Ouais. On en fait la synthèse, on en fait l'analyse, mais on le donne aussi à lire au lecteur. Et ça, le lecteur adore parce que. Il a à disposition le matériau sur lequel le journaliste travaille. Mmh. Ce qui aussi est une mise en danger quelque part, parce que du coup, il peut remettre en question la lecture et l'analyse du rapport, par exemple.
Bien sûr. Donc, sur cette question-là, vous avez des choses à ajouter ? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt disons, une sorte d'optimisme général. Enfin, pas d'optimisme, disons, quant à la capacité, la réussite de ces formes, mais en tout cas l'intérêt qu'il y a à les expérimenter. Je ne m'attendais pas forcément à ça.
Il y a un revers de la médaille, évidemment. Ouais. Mais c'est globalement, évidemment, on est globalement optimiste. Maintenant, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure...
Alexandre Hervaux,
une anecdote très claire. Par exemple, là, on a eu la vidéo de Julien Drey qui est sortie où il balance sur à peu près la Terre entière. On le voit passer... Enfin, moi, les autres plus que moi encore, le voit passer sur Twitter le lundi matin. Moi, je vois cette vidéo, elle me choque, mais je me dis, bon, ce que je donne, ou est-ce que je fais quand même un petit travail autour les personnes incriminées, est-ce que je les appelle, est-ce que j'essaie d'en discuter, est-ce que je vais voir auprès des colistiers de Julien Drey, je fais ce travail-là. Résultat, mon papier il sort le mardi matin, un jour après, moi, je me suis fait griller, tout le monde avait déjà sorti la vidéo, machin. Alors j'y apporte certaines plus-values, mais cela dit, je me suis fait complètement griller sur en termes de le premier à donner l'info.
Il y a plusieurs temps, je crois. Il y a effectivement le premier temps de l'urgence qui est de donner la vidéo avec le contexte, pourquoi elle a été tournée, pourquoi elle est balancée maintenant, assez vite, c'est-à-dire dans la seconde si possible. Mmh. Et puis après, le deuxième travail, effectivement, de décryptage qui est d'appeler les gens qui viennent un peu plus...
Quand je dis revers de la médaille, c'est qu'on a surtout donné la vidéo, on ne l'a pas trop contextualisée, on n'a pas fait et on n'a pas pris beaucoup de recul derrière.
Alors justement, parlons de l'hypothèse 3 dans ces cas-là, qui ne devait pas être celle-là, mais qui sera celle-là, puisque vous allez vous-même vers ça, qui est la question de l'obsession du temps réel. Parce que c'est exactement ce que vous décrivez. C'est-à-dire que le problème face auquel vous êtes, c'est que cette vidéo vous arrive, que si vous ne la mettez pas, vous êtes nul. Mais si vous la mettez que brute, vous ne faites pas votre travail de journaliste. Donc comment on fait face à ça ?
Le temps réel, on est obsédé par ça parce que juste c'est possible. Le fait que l'accélération de la production de contenu est possible aujourd'hui, le fait d'écrire vite, le fait d'avoir un carnet d'adresses qui fait qu'on peut téléphoner très vite et qu'on a des outils pour publier dans l'urgence, ça fait que c'est un nouveau format possible. Enfin, on parlait des formats tout à l'heure. Et du coup, on est obsédé par ça. En France, c'est vrai qu'il y a deux sites qui sont vraiment obsédés par le temps réel. C'est Le Poste et 20minutes.fr. Et c'est une sorte de contrat de lecture, en fait, avec les internautes. C'est de leur dire, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez vous connecter sur un site d'infos comme le 20minutes.fr ou Le Poste, vous allez avoir la dernière information disponible sur le réseau.
Avec le danger que ça, c'est que évidemment, ce qui est motivé par ça, c'est on a la capacité, on a la possibilité technique de pouvoir poster et actualiser un papier dans la seconde. Mais il y a aussi évidemment, tu vois, la course toujours à l'audience et le fait de griller les petits copains, et ce qui aboutit en général à une espèce d'uniformisation. Quand on va sur les pages d'accueil des différents sites de médias en France, bon, ça marche aussi dans d'autres pays évidemment, mais on a l'impression d'avoir exactement les mêmes choses, parfois les mêmes titres, parfois les mêmes photos sur des sujets, surtout, pas seulement sur les dernières vidéos qui buzzent, mais aussi sur des faits divers, sur la politique, etc. Et ce qui parfois se retrouve un peu dans les contraintes qu'on donne aux journalistes. Moi, je vois par exemple en début de semaine, quelqu'un de Libération.fr nous demander à écran de faire un papier sur la sortie du Google Phone, là, le Nexus One. Ouais. Sauf que c'était le mardi et que l'annonce officielle à l'heure californienne arrivait en soirée. Donc, on avait déjà fait des articles sur ce fameux téléphone à partir d'éléments qu'on avait eus ailleurs. Mais on n'avait pas d'éléments plus à apporter, d'informations plus. Ou alors, en tout cas, très peu, pas de quoi forcément motiver l'écriture d'un papier dans l'urgence, juste parce que tous les autres journaux, enfin tous les autres sites en avaient fait.
Et donc, vous êtes sorti comment de ça ?
Et bon, on l'a pas fait. Enfin, on l'a fait le lendemain, quoi. L'a fait le lendemain et accessoirement, nous, on a été appelés à écran pour le faire, pour le print, pour le journal papier. Ouais. C'est parce qu'on est un peu bimédia aussi, on travaille pas uniquement sur Internet. Donc voilà, bon, après, on peut discuter. La personne qui nous a demandé à Libération.fr avait aussi ses raisons, évidemment. Ouais. Et c'est vrai qu'on aurait pu le faire sous un angle différent, etc. Mais,
c'est bien de ménager sa chefferie.
C'est bien de ménager sa chefferie aussi, faut pas être.
Non, mais l'obsession du temps réel, c'est quand même aussi un peu l'obsession de l'audience. Enfin, je suis d'accord c'est parce qu'on peut le faire qu'on les met le plus vite possible en ligne, mais c'est aussi pour être le premier à le faire en ligne.
Est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment ce que vous demandent vos lecteurs ? Est-ce que vous en êtes certain de ça ?
C'est pas une question d'être certain, c'est une question de faire du clic, entre guillemets, parce que ce clic-là va alimenter l'audience qui va elle-même justifier la pub.
Vous n'avez pas de pub sur Mediapart ?
Je parle, parce que moi je viens de 20minutes.fr, du Figaro.fr, j'ai vécu ça quand même.
C'est une espèce de lourde expérience.
Voilà, j'ai vécu ça. Mais c'est vrai que c'est aussi ça qui motive, même si effectivement il y a cette possibilité de mettre en ligne tout de suite quelque chose qu'on a, et ça c'est quand même intéressant.
Votre référence est dans Google tout de suite, voilà.
Mais il y a un deuxième format quand même qui naît, après je donne la parole à Eric, qui naît de cette urgence du temps réel, c'est le fait qu'on fait ce qu'on appelle nous du work in progress, c'est-à-dire un article en construction qu'on alimente en permanence, et on va faire un premier paragraphe qui est l'information un peu brute. Ensuite, deuxième paragraphe, c'est on a passé un coup de fil et on a une information avec une citation à nous, et on déroule le papier en permanence comme ça, c'est-à-dire qu'il est rafraîchi. Vous faites mise à jour sur votre navigateur et vous voyez apparaître des lignes et des lignes qui se construisent en temps réel.
Et quand Laura Smet se suicide, finalement, au bout d'une demi-heure, elle s'est peut-être pas suicidée.
Voilà, c'est quand même le problème. Éric Scherrer.
Oui, bah alors justement, là, tout le monde devient une agence de presse, là, donc c'est intéressant. Je voudrais juste rappeler que c'est quand même l'une des essences du journalisme d'être avant les autres. Donc, c'est pas quelque chose qui est extérieur à notre mission. Donc, chacun, on essaye d'être effectivement exclusif, être avant les autres, c'est le mot de scoop, etc. En même temps, il y a toujours cette obligation de balance et de check, de vérification. Et donc, nous, bon, on a cette habitude depuis des dizaines et dizaines d'années, cet équilibre à maintenir entre l'urgence de l'information et et l'authenticité de l'information. On essaye et on vise absolument à avoir une information peut-être un tout petit peu en retard, mais au moins vérifiée. Ça, c'est vraiment l'une des clés avant de la mettre en ligne ou de la mettre sur les anciens téléscripteurs, de la vérifier. Mais l'urgence est évidemment dans l'ADN du journalisme.
Est-ce que vous, par exemple, à l'AFP, le fait que n'importe quel média en ligne, justement, comme vous l'aviez précisé comme ça rapidement, peut se transformer en agence de presse, est-ce que vous, ça vous a obligé à être beaucoup plus rapide?
Non, je crois pas. Ce que disait Alexandre tout à l'heure est vrai. Si vous regardez les sites de news aujourd'hui, vous avez à peu près la même une. C'est parce que l'essentiel vient des agences de presse aujourd'hui.
Donc, on
continue notre métier, on continue à rester utile, heureusement. On change, oui, il faut qu'on soit plus sous pression, évidemment, et on a plus de choses à surveiller. Ça, c'est un peu plus compliqué pour nous. C'est-à-dire la surveillance ou le contrôle de la manière dont les événements surgissent ou sont relatés extrêmement vite, et Twitter est pour ça quelque chose de très challenging, comme on dit en mauvais français. Il faut faire attention à qui produit. Mais nous, enfin, la mission essentielle, c'est de la vérifier, de mettre un label d'authenticité sur l'information pour que nos clients continuent
à nous... Une grosse spécialité quand même, avec cette obsession du temps réel, dit de façon non péjorative, mais c'est que se développe, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais se développe de plus en plus l'usage du conditionnel, par exemple. Comme on n'est pas sûr...
C'est intéressant, ça, qu'on parle plus au conditionnel...
On parle vachement plus... Enfin, moi, j'ai l'impression...
Peut-être et le point d'interrogation, qui est revenu en force, le point d'interrogation.
Le point d'interrogation et le conditionnel. Vu qu'on est en work in progress et qu'on fait au voulu le truc, y a des fois où on n'est pas sûr de ce qui va finalement ressortir de l'article qu'on est en train d'écrire et qui est en cours de rédaction. Donc, on fait du conditionnel.
Oui, les titres évoluent effectivement en même temps que se construit la news.
Mais, moi, en tant que lecteur, ça ne m'intéresse pas fondamentalement un article écrit au conditionnel avec des points d'interrogation. Personnellement, enfin... Voilà.
Nous, sur Mediapart, c'est justement un truc qu'on s'est interdit parce que il y a... Effectivement, moi, ça me semble être quand même une régression de développer le conditionnel, alors qu'a priori, si on est journaliste, c'est justement pour s'interdire le conditionnel.
Non, mais il faut relativiser. On ne relaie pas non plus une rumeur sous prétexte que c'est la dernière née sur Internet. On relaie ce qui nous a servi. Par exemple, sur Twitter, on a vu une alerte, une information qui paraît. Pour nous, c'est peut-être un urgent. Mais avant de le publier sur notre site, on va quand même passer un coup de fil. Et il y a quand même cette notion de vérification de l'information qui est importante. Et avant qu'on la mette sur un site, on va quand même la vérifier. Il est hors de question de publier quoi que ce soit qui serait délirant ou faux, etc. Après, sur la contextualisation, ça, c'est vrai que ça se fait en marchant. Mais sur l'information, même si on la met au conditionnel et même si on n'a pas tous les éléments encore, on ne va pas publier une rumeur, ça c'est sûr.
Bon, bien. Avant qu'on en passe à l'hypothèse 4, je vous propose une petite pause. Vous pourrez tweeter tranquillement sans avoir besoin d'étendre votre bras loin du micro, Alexandre Hervault. et on se retrouve dans quelques instants.
Connected. C'est sur le très beau téléphone call du groupe électro-allemand Kraftwerk que je voulais introduire la lecture de la semaine. La lecture de la semaine, il s'agit, une fois n'est pas coutume, d'un roman. Il s'intitule Little Egypt et il vient de paraître aux éditions Kalman Levy. On le voit, un auteur américain, Thomas McMahon, dont c'est le premier livre traduit en France. Thomas McMahon est mort en 1999, date à laquelle, jusqu'à laquelle il fut professeur de mécanique appliquée et de biologie à l'université de Harvard, sans jamais cesser d'écrire des articles scientifiques, bien sûr, mais aussi quatre romans, dont Little Egypt. Alors, Little Egypt, c'est le surnom que s'est donné le personnage principal de ce roman, de son vrai nom, Murli Wold. Il est né presque aveugle dans l'Amérique du début du siècle, presque aveugle, mais doué d'une curiosité sans limite et d'une aptitude exceptionnelle pour les sciences physiques. Et à force d'expérimentation, Murli Wold trouve le moyen de pirater les lignes de téléphone qui commencent à parcourir le paysage américain, de s'y introduire et d'y ouvrir une ligne parallèle qui lui permet de créer une sorte de communauté qui réunit d'autres aveugles, mais aussi des opératrices et des techniciens des quatre coins du pays. Tous, depuis leur combiné, ils se retrouvent sur cette ligne parallèle, s'y créent des personnalités, y échangent, rient et se séduisent. Alors, croyant bien faire, Murli Wold, alias Little Egypt, prévient anonymement la compagnie de téléphone américain de la fiabilité de son système, mais celle-ci, au lieu de lui proposer d'y remédier, lance une grande campagne pour dénicher Little Egypt, campagne largement soutenue par le magnat de la presse William Hearst, qui y voit un complot des Mexicains anarchistes visant à déstabiliser les États-Unis. Alors ce résumé est forcément très lacunaire et ne rend pas hommage aux qualités de ce livre qui brille d'abord par son côté touffu, par la manière dont il alterne la scène coquine et le développement scientifique, et puis par les portraits qu'il dresse, en particulier de Graham Bell, de Hearst ou d'Edison, dont il rappelle l'immense célébrité à l'époque et le rôle essentiel dans cette Amérique du début du siècle. Alors pourquoi en parler dans Place de la Toile, me direz-vous ? Car il n'est pas vraiment question de nouvelles technologies quand on parle de téléphone. Eh bien, la raison, c'est qu'il est intéressant d'en parler parce qu'il y a des analogies qui sautent aux yeux presque à chaque page entre les problématiques auxquelles se heurte le réseau naissant du téléphone et l'Internet. Juste une parenthèse pour préciser qu'il est fort possible que cette analogie et ces analogies n'aient pas été voulues par l'auteur puisque ce livre a été écrit en 1987. Mais quand même, c'est frappant. Ce groupe de gens qui, à leur manière, luttent contre la standardisation et la marchandisation du téléphone en créant des outils pour s'y soustraire, mais des outils sur les usages desquels ils sont circonspects parce qu'ils hésitent à les diffuser, à les garder pour leur seule communauté ou à les employer pour déstabiliser l'ensemble du réseau, ce groupe ressemble à une communauté de hackers ou même aux défenseurs du libre qui luttent aussi contre la standardisation et la marchandisation d'Internet. Ce qu'ils défendent, c'est un autre modèle, et c'est pas pour rien qu'ils déclenchent la colère de ceux qui sont en train de mettre en place un modèle standardisé et rémunérateur. En ce sens, ce roman rappelle à sa manière une vérité bien connue des historiens des sciences et des technologies, que l'apparition d'une technologie, la généralisation et les formes de ses usages ne sont pas naturelles, mais qu'elles font l'objet de choix qui souvent sont moins d'ailleurs des choix scientifiques que des choix politiques ou industriels. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment pour l'Internet, mais c'est ce qu'on a vécu pour l'électricité, le téléphone ou la radio. Ainsi, l'auteur de Little Egypt imagine une rencontre entre son héros et Nikola Tesla, le grand chercheur découvreur du courant alternatif, adversaire d'Edison, et il en profite pour nous rappeler que Nikola Tesla avait aussi inventé la radio et qu'il pensait que ce serait par les ondes qu'il fallait chercher à communiquer et pas par les fils. Ça n'a pas du tout été la direction prise par les industriels et les politiques américains, et il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que le téléphone soit sans fil. Little Egypt de Thomas McMahon, ou Comment réfléchir sur Internet en lisant un roman sur les débuts du téléphone. I was sleeping gently, napping when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head. Voilà, il est 11h41, vous écoutez France Culture, Place de la Toile, et Lou Reed, évidemment, New York Telephone Conversation. Alors pendant que je parlais, deux des journalistes présents autour de cette table n'ont absolument pas écouté un mot de ce que j'ai dit.
Non,
attendez, vous n'avez pas à m'expliquer, vous êtes capable de faire 10 choses en même temps. Donc vous avez fait des photos, Alice Antoum a fait des photos qu'elle a dû balancer sur Twitter immédiatement, en lien sur Twitter, Alexandre Hervou a écrit, c'est absolument terrible, j'ai l'impression de faire à une classe de collège.
Si vous avez parlé de Tesla, moi.
Oui, vous êtes sympa.
C'est
merci.
Comme en classe.
C'est exactement ça, comme en classe. Un mot, le dernier prononcé, voilà. Et puis on dit, on donne l'impression qu'on a entendu le reste. Alors on parle donc de journalisme et de journalisme en ligne en particulier, des problèmes qui se posent à ce journalisme aujourd'hui avec Eric Scherer de l'AFP, avec Alice Antoum de 20minutes.fr, de Stéphane Aliès de Mediapart et Alexandre Hervaux de Libé Écran et de Twitter. Puisque... voilà. Deuxième temps de notre conversation donc. Hypothèse, passons à l'hypothèse 4. Quand même, il me semble qu'il y a une grande déception concernant les espérances qu'on pouvait avoir sur cette question du journalisme en ligne et du nouveau journalisme en général. C'est la question de l'interaction avec le lecteur et la question de la participation plus globalement. Je n'ai pas le sentiment qu'on ait vu émerger des formes de participation du lecteur, ou en tout cas des non-journalistes, à l'élaboration d'un journal, à la réflexion sur l'information. J'ai pas l'impression qu'on ait vu des formes très intéressantes émerger, et qu'au fond, c'est toujours le journaliste qui, même s'il est un peu plus discuté qu'avant, au final, décide et apporte l'essentiel de l'information. Qu'en pensez-vous, Alexandre Hervois?
Moi, je suis pas forcément ultra d'accord. Enfin, c'est vrai que si on reste d'une manière très superficielle sur les sites d'information généralistes, etc., effectivement, c'est vrai qu'on peut avoir cet aspect-là. Sauf que la plupart des sites d'information, que ce soit voilà, des sites de quotidien notamment, ont tous en général des blogs qui sont pas forcément uniquement alimentés par des journalistes du média en question, mais qui peuvent être faits par des lecteurs qui ont une compétence particulière. Ça peut être, je sais pas, moi, ils sont sportifs, ils travaillent dans le droit, etc. Donc ça, déjà à ce niveau. Voilà, le rapprochement qui s'est fait à ce niveau, en termes de blog et de médias est assez intéressant et du coup contrecarre un petit peu cette idée-là selon laquelle il n'y aurait pas eu assez de participation. Et puis après, il y a des médias qui se sont totalement forgés sur cette idée-là de participatif, et je pense notamment au Poste.fr, hein, une filiale du Monde Interactif, qui y a une équipe d'une dizaine de journalistes qui travaillent, qui hiérarchisent un peu l'info, et une énorme partie des informations qui sont mises en ligne sur la home du Poste.fr sont des informations qui viennent d'internautes lambda, de lecteurs,
qui sont vérifiées ensuite par
les journalistes du Poste, parce qu'ils ne peuvent pas balancer non plus n'importe quoi en home, souvent, généralement. Et donc voilà, il y a une espèce de participation comme ça des journalistes, enfin non, justement, lapsus, des non-journalistes, mais en interaction et en collaboration perpétuelle avec les journalistes.
Eric Chavert.
Moi, je crois que si les journalistes veulent survivre, il faut qu'ils changent de manière radicale leur manière de travailler. Et je crois qu'ils n'ont pas le choix. Si on veut revenir aux fondamentaux du journalisme, il y a 4 grandes missions dans le journalisme. Et je vais faire un peu de top-down, là, mais il y a la collecte, il y a l'enquête. La troisième, c'est le tri, la vérification, la hiérarchisation. Et la quatrième, c'est l'analyse. Si vous prenez ces 4 pôles-là, il y en a déjà 3 qui sont partagés avec l'audience. La collecte. Aucune rédaction aujourd'hui ne peut concurrencer des millions de téléphones portables dans la nature. Aucune. Donc la collecte, elle est partagée. L'investigation et l'enquête, elle est non seulement partagée, mais elle est menacée. Elle est partagée parce que les citoyens vont pouvoir, et les ONG d'ailleurs, enquêtent de leur côté. Il n'y a pas que les journalistes. Et le quatrième point, je vais prendre le troisième en dernier, mais le quatrième point, l'analyse et l'expertise et l'opinion, elle est évidemment partagée parce qu'on trouve, chaque journaliste sait très bien qu'il y a un expert plus malin que lui et que cet expert-là, maintenant, aujourd'hui, il a pris la parole dans un blog. Et donc, on peut avoir des expertises et des analyses bien plus pertinentes que celles d'un journaliste aujourd'hui. On a donc 3 fonctions sur 4 qui sont aujourd'hui partagées avec l'audience, qu'on le veuille ou non. La dernière, qui, à mon avis, reste celle, l'apanage, encore un peu incopiable, si vous me permettez l'expression, de la mission du journaliste, c'est cette fonction de tri, de vérification, de mise en perspective, de relier les choses les unes avec les autres, d'intelligence pour essayer d'expliquer le monde, d'expliquer, de faire comprendre aux gens.
Mais est-ce que vraiment, si on prend un des points qui serait la collecte, et donc imaginons que les gens vous écrivent sur des commentaires ou disent voilà, il y a ça d'intéressant. Est-ce que vraiment il vous est arrivé, sincèrement, il vous est arrivé via les internautes des informations intéressantes?
Ça dépend des sujets. Sur ce qui est le quotidien des internautes, par exemple, les grèves, les intempéries. En tout cas, à 20minutes.fr, on a énormément de photos qui arrivent, qui ne sont pas de l'information en tant que telle, parce qu'on l'a déjà, l'information, mais qui sont de l'illustration et une forme de témoignage. Et ça, malgré tout, c'est ce qu'on cherche, c'est du témoignage. Quand on a une photo, c'est très bien. La vidéo, ça ne marche pas encore très bien, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas à terme. Et sur les photos du quotidien, ça, c'est très pertinent aujourd'hui. En revanche, avoir un scoop, puisqu'on reparle de ça, apporté par un internaute, c'est vrai que l'expérience, elle est faible aujourd'hui, mais comme on disait, on est en train de construire quelque chose. Donc demain, oui, pourquoi pas, ça va arriver. Et sur l'expérience participative, le champ journalistique aujourd'hui, il est plus réduit à son petit précaré, c'est-à-dire que le journaliste doit savoir observer partout. Et quand vous disiez tout à l'heure que vous aviez l'impression qu'on faisait 10 000 choses en même temps, ouais, et que ce n'était pas possible, bah si, les journalistes de demain, ils doivent savoir faire beaucoup de choses en même temps, avoir un espèce de cerveau multidimensionné pour observer un peu partout, à la fois sur le net, mais aussi dans la rue. Et ça, ça s'ajoute à leurs compétences et ils doivent savoir gérer ces multiplicités de fenêtres qui s'ouvrent devant leurs yeux.
Mmh. C'est vrai, en fait, vous reprenez effectivement ce que dit Éric Scherrer depuis le début, le problème de l'élargissement, disons, de la surface à observer, Alexandre.
Et la collaboration et je dirais la mise à disposition de documents produits par des internautes ou par des non-journalistes est devenue un business à part entière, que doit bien connaître Éric Scherrer de l'AFP, puisque l'AFP est actionnaire de CitizenSide, cette boîte française qui s'est notamment illustré, je crois, en fournissant aux médias les premières images de Jérôme Kerviel après son arrestation. Mmh. Bon, ça, c'est un des scoops qu'ils avaient eu, etc. Mais il y en a eu d'autres. Et voilà, CitizenSide, c'est un site qui permet aux internautes d'envoyer des photos, des vidéos, qui sont ensuite proposées aux différents médias. Et donc voilà, c'est en général pas fourni par des vrais journalistes ou des vrais photographes professionnels. Et ça illustre bien, justement, avec le web, ce qui est devenu la mutation qu'a subi un peu le journalisme à ce niveau-là.
Mmh. Oui, je crois qu'en photo, c'est clair. C'est un domaine où... Et je voudrais qu'on balaye le terme de journaliste citoyen, mais plutôt de témoin citoyen. À partir du moment où on a des témoins, ces témoins rapportent des faits aux journalistes de les vérifier et de les hiérarchiser.
Mmh. Stéphane Aliès.
Oui, moi, je trouve qu'effectivement, déjà, le participatif a apporté quelque chose, c'est effectivement le blog. Le fait que maintenant, des experts n'ont plus besoin d'être sollicités par les journalistes, ce qui fait que ça diminue l'effet d'une caste de toujours les mêmes les experts qui passent tout le temps dans les mêmes plateaux. Cette fois-ci, un expert intéressant, bah, s'il n'est pas relayé médiatiquement, il fait son blog et finalement, grâce... Enfin, en parallèle au journalisme et au petit monde médiatique, il arrivera à se faire connaître et acquérir une légitimité auprès des internautes.
Il fait son blog abrité par un média ou pas forcément ?
Pas forcément, ça aide. Généralement, ça aide. Abrité par un média, c'est sûr que ça aide.
Oui, on peut le relayer.
Mais il peut être relayé, poussé en une par sur le site dans lequel qui est une plateforme de blog sur lequel il collabore. Il y a par contre là où je suis d'accord avec vous, Xavier, c'est sur il y a effectivement un effet mirage du participatif. Sur ce qu'on aurait pu attendre et espérer des commentaires.
Oui, c'est bien la partie des commentaires.
Et alors, c'est marrant que je sois à côté d'Alice parce que je sais que quand j'ai quitté 20minutes.fr, où nous étions tous les deux.
Ou Alice serait devenue votre chef.
Ou Alice serait devenue mon chef. Pas forcément, je serais peut-être devenue chef. Non, mais elle m'avait dit, tu vas voir. Moi, j'attendais beaucoup des commentaires justement par rapport à 20minutes.fr où c'est un peu tout le temps, il y a à boire et à manger et surtout, surtout de l'invective. Et je me disais. Alors, avec le côté payant, l'anonymat disparaît. C'est-à-dire que le pseudonymat peut rester, mais quand même, le mec, il a mis sa carte bleue pour pouvoir commenter. Donc, il va pas faire des insultes racistes. Ce qui a été le cas pendant Gaza, nous, on n'a pas fermé les commentaires. Mais cela dit, et Alice m'avait dit à cette époque, Alice qui avait, elle participait au lancement de Télérama.fr, m'avait dit, à mon avis, ça va être comme sur Télérama. T'auras au début une communauté, ça va être super intéressant, ce qui a été le cas. Des commentaires vachement, on est interpellé, mais sur des trucs de fond, on discute, on répond aux questions pour prolonger l'article, super intéressant. Et en fait, assez rapidement, c'était la prédiction d'Alice, d'autres arrivent sur le site et les premiers se sentent dépossédés de leur légitimation d'être les premiers à pouvoir discuter. Et du coup, ça devient des invectives entre commentateurs. Et c'est vrai que sur Mediapart, c'est souvent le fait d'une toute petite minorité, mais qui est proactive et qui, du coup, bah, vient flinguer un peu de ceux qui étaient au départ des fils de discussion très intéressants. Et là, il y a encore quelque chose à inventer pour que les commentaires soient... car il y a vraiment un potentiel qu'un fil de commentaires au bas d'un article fasse partie lui-même de l'article et que l'ensemble fasse un tout très intéressant, à la fois la vision du journaliste, la façon dont elle est débattue, la façon dont elle est complétée, alimentée. Et juste pour finir, je veux dire que ça continue à inventer. Moi, j'ai en tête le blog lancé par l'excellent Nabil Wakim du Monde qui s'appelle Les Décodeurs, où en gros, il soumet un sujet. C'est souvent un truc de fact-checking, de vérification d'une information, d'une assertion lancée par un politique, un historien, un sociologue. Et il dit, OK, moi, avec mes internautes, on va essayer de démonter. Là, le dernier en date, c'était Besson, sur une parole de Besson par rapport au bilan du débat sur l'identité nationale. Il a tout le, enfin oui, sur le nombre de commentaires réellement racistes qu'il y avait pu y avoir. Il a mobilisé plein d'internautes qui chacun ont fait des recherches et au final il peut produire une information qui vient démentir la parole officielle. Et ça c'est quand même très intéressant, l'enquête participative.
Alexandre, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Stéphane. Effectivement, c'est vrai que ça reprend un petit peu ce que j'avais dit en début d'émission, à savoir que l'erreur était de moins en moins tolérée, en tout cas elle durait beaucoup moins longtemps. Et on s'aperçoit même que les journalistes qui ne sont pas forcément amenés à côtoyer le web régulièrement seraient bien inspirés de le faire, parce que des fois ça amène à des situations un petit peu ubuesques qui témoignent vraiment d'une ignorance un peu des pratiques sur le web. J'ai un exemple en tête qui est assez simple, c'était quand M6 s'est fait piéger en diffusant il n'y a pas très longtemps une vidéo présentée comme l'extrait d'un JT télévisé allemand dans lequel le présentateur serait en train de se moquer de Jean Sarkozy
quand c'était il était
l'épisode
de l'EHPAD, et
alors qu'en fait c'est un détournement et c'est le béaba du lol des trucs drôles sur internet, c'est de prendre une vidéo en allemand ou dans un langage qu'on parle assez peu et de faire dire n'importe quoi aux gens via le jeu des sous-titres. C'est une vidéo qui avait énormément tourné sur les blogs, sur Twitter, où tout le monde avait évidemment pris la vidéo pour ce qu'elle était, à savoir un fake, un faux, et les gens de M6, visiblement peu coutumier de ce genre de pratique, l'avait pris pour argent comptant, l'avait diffusé, c'était fait taper sur les doigts par le CSA.
Il y a eu pire, c'est que Canal+ a diffusé, mais 4 jours après la diffusion d'M6, et que du coup, non seulement effectivement la vidéo d'emblée pouvait être interprétée comme un fake, mais il avait été dit sur ces mêmes fils Twitter, etc., que c'était un fake, et puis on pouvait voir la vraie vidéo originale. Donc sur ça, je suis absolument d'accord avec Wally Santom.
Pour les entretiens d'embauche à 20minutes.fr, on demande toujours à nos candidats, est-ce qu'ils ont un compte Twitter ? Si oui, comment ils l'utilisent ? Si le candidat nous répond qu'il ne connaît pas le mot Twitter, ou alors qu'il a un compte, mais qu'il n'alimente pas, ou que... il ne sait pas produire du contenu dessus, pour nous c'est un élément très négatif pour l'embauche, parce qu'on sait que du coup il ne pourra pas regarder ce qui va se passer sur ces secteurs-là.
Alors justement, il nous reste très peu de temps, mais abordons cette question de Twitter, parce que deux d'entre vous au moins sont là en partie pour votre existence sur Twitter. Je le disais en début d'émission, Alexandre Hervault est extrêmement...
Twitter, je ne serai rien, c'est ça l'histoire.
Je n'allais pas le dire comme ça, mais vous avez une présence qu'on peut dire quasi permanente sur Twitter. Vous tweetez à une vitesse absolument incroyable et à des heures complètement indues. et Ali Santom, vous tweetez aussi beaucoup, mais surtout vous êtes suivi par 24 000 personnes. C'est énorme, 24 000 personnes. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes un média à vous toute seule. Et j'aimerais savoir, j'aimerais essayer de comprendre cette double existence. Alors bon, il nous reste 3-4 minutes, c'est pas beaucoup. Mais enfin, au moins que vous donniez quelques éléments, par exemple, simplement, de qu'est-ce que vous considérez comme une information digne d'être dans le journal qui vous emploie, qui vous paye, et celles que vous mettez sur le tweet, est-ce qu'elles ont des formes très différentes ? Est-ce que parfois elles se recoupent ? Enfin, j'aimerais bien comprendre ça. Alexandre Hervault.
Moi, c'est intéressant parce que je rappelle que j'écris pour écran.fr, le site un peu geek, nouvelles technologies et actu numérique de Libération. Donc, j'écris sur le web dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que le web est mon support, mais c'est aussi mon sujet, le sujet des papiers que j'écris. Et c'est aussi pour ça que je suis actif sur Twitter, c'est pour rechercher de l'information. Et il m'arrive, j'essaye d'éviter en général, mais il m'arrive de retweeter ou de tweeter d'abord un lien vers quelque chose qui me semble intéressant, et de me dire après, finalement, ça ferait bien une petite brève sur le site avec un petit recul, une petite analyse. Ça m'arrivait par exemple deux fois dans la journée hier de tweeter directement l'information pure en tant que telle, et après d'en faire un mini résumé, une mini analyse, et de la placer dans ce qu'on appelle le vue sur le 3W, c'est-à-dire une espèce de veille toute la journée.
Ou de faire l'inverse, parce que hier vous avez tweeté en envoyant un lien vers le papier que vous aviez écrit pour l'IB papier, en disant, en vous excusant presque, en disant, ça fait un peu print, mais je vous l'envoie quand même. Du genre, vous, les tweeters, ça va pas forcément vous passionner, enfin, les tweeters, ça va pas forcément vous passionner, mais bon, voilà, je vous l'envoie quand même.
Oui, c'est dans les deux sens, effectivement, à la fois renvoyer vers le média pour lequel on travaille, et aussi donner de l'information qui est extérieure à son média. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on a une existence. Moi, mon compte, il s'appelle Alicante, il ne s'appelle pas 20minutes.fr. Sinon, je ne donnerais que de l'info qui concerne 20minutes.fr.
Qu'est-ce que vous donnez comme autre info ?
Par exemple, des sortes de revues de web vers ce qui se passe le matin sur d'autres sites et que nous, on n'a pas encore eu le temps de faire parce qu'il est 7h du matin, par exemple, et qu'on va le publier peut-être à 8h ou pas. Parce que parfois, le lien se suffit, mais ne vaut pas forcément un news. Donc ça, c'est un drôle d'équilibre. Et...
Allez-y.
Ouais, dernière chose, c'est aussi une façon, c'est un peu le futur des blogs. On peut être plus éditorialisant sur un compte Twitter et plus pushy, plus punchy, en tout cas sur un compte Twitter en 140 signes, que dans un news factuel.
Mmh. Vous, Alexandre Arvaux, vous tweetez des choses... Pour le coup, il y a une sorte de mélange entre privé et public qui est assez...
Oui, c'est assez improbable parfois. Il faudrait que j'essaie de... J'ai pas envie d'avoir une ligne, si vous voulez, précise. Mmh. Les gens qui connaissent un peu et qui suivent sur Twitter ont dit que ça me ressemble un peu. Donc, bon, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas un fil conducteur et une idée directrice. Mmh. Ça peut être aussi bien des trucs d'autopromo que des trucs vers les collègues, vers des trucs improbables ou des pensées, des anecdotes parfois quand j'en ai.
Bon, merci beaucoup à tous les quatre. On finit un peu à l'arrache cette émission. Éric Scherrer, Ali Santom, Alexandre Hervaux et Stéphane Aliès, vos références sont d'ores et déjà sur le site Place de la Toile. Cette émission vous est proposée par Xavier Delaporte avec la collaboration de Daphné Amgras. La technique ce matin, c'était Jean-Frédéric, réalisation Daniel. Finalement, la semaine prochaine, on parlera de système complexe, de web comme système complexe avec René Doursat. D'ici là, très bonne semaine à tous.